Et pour cette nouvelle fabrique médiatique, après 2 mois d'arrêt, nous avons eu envie de changer quelque peu la formule pour l'adapter à ces temps inédits et proposer chaque semaine un regard singulier en se plaçant non pas du côté de celles et ceux qui fabriquent l'information, mais plutôt du côté de celles et ceux qui la reçoivent, la lisent, la regardent, l'écoutent. Notre invité ce matin est Noël Mamère. Bonjour Noël Mamère.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ancien député écologiste et maire de Bègle et ancien journaliste. Vous avez notamment, parce que vous avez occupé beaucoup de fonctions dans les médias, mais notamment vous avez présenté les journaux sur Antenne 2, je m'en souviens, parce que j'étais petite fille à ce moment-là. Dites donc, Noé Malmer, quel utilisateur, quel lecteur, auditeur, spectateur avez-vous été pendant ces 2 mois? Est-ce que vous avez suivi quotidiennement, assidûment ou plutôt irrégulièrement ce qui se passait dans le monde?
Bon, je crois que comme beaucoup de Français, j'ai suivi assidûment, j'ai sans doute fait partie de ceux qui ont augmenté l'audimat des chaînes de télévision. Mais vous avez eu la gentillesse de dire que j'avais été journaliste. J'ai quand même eu un sentiment de déjà-vu. J'étais journaliste et je présentais le journal de 13h au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et j'ai eu vraiment le sentiment que nous étions avec des médias qui se laissaient complètement, qui étaient complètement sous la coupe d'une communication qui était très organisée par l'État. Alors en 1986, on avait le professeur Pellerin et en 2020, nous avions le professeur Salomon qui nous expliquait que nous n'avions pas besoin de masques. Et il a fallu quelques semaines avant que la presse ne se mobilise, en tout cas une partie de la presse, parce qu'une bonne partie des médias sont restés influencés sous la coupe de cette communication-là. Et il a fallu que certains journalistes se réveillent et activent leur volonté de savoir en proposant des enquêtes qui ont démontré qu'il y avait quand même une sorte de scandale politico-sanitaire qui était à l'œuvre. C'est ça que j'ai pu constater. Puis j'ai été aussi assez marqué par cette idée parce que le président de la République a prononcé, c'est-à-dire le mot de guerre. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en guerre, parce que c'est pas du tout la même chose, mais ce mot a permis, encore une fois, la presse s'est emballée et a suivi, comme un bon soldat, si je puis dire, et du coup, quand on déclare la guerre, ça permet de mettre en œuvre des outils de surveillance, de contrôle et de sanctions, et ça, d'une certaine manière, un petit peu engourdi l'esprit, l'autonomie des Français. Au lieu de jouer sur la responsabilité individuelle, on a d'une certaine manière infantilisé les Français. Je trouve que cette métaphore de la guerre a été dangereuse, n'est pas bonne, et on voit bien aujourd'hui qu'on est toujours sur cette ligne de la sanction, où on ne fait pas du tout appel à la responsabilité des gens, et ça, j'allais dire en creux pour parler à la mode, ça révèle quand même une certaine faiblesse d'un État qui n'est pas sûr de lui. Et donc, on est assez proche de ce qu'écrivait Naomi Klein dans la stratégie du choc. Le choc, c'est-à-dire la guerre, permet de mettre en œuvre des outils qui, quand même, ont beaucoup réduit nos libertés. Et je crains qu'après tout ce qui a été fait à l'issue des actions terroristes et la réduction de nos libertés, puis maintenant avec l'état d'urgence sanitaire, le réveil soit assez douloureux et que nous nous retrouvions dans un système où la démocratie a quand même pris quelques coups et sort un peu cabossée de cette affaire.
Peut-être, Noël Mamère, à la décharge des journalistes dont vous parlez, à qui vous avez l'air de reprocher plutôt une communication qu'un travail d'information, les conditions de travail pendant 2 mois ont été très compliquées, hein, confinés aussi chez eux, avec attestation et en particulier attestation de l'employeur pour avoir le droit de sortir, aller faire des reportages, avec beaucoup moins de possibilités pour un certain nombre de rédactions de sortir et d'aller voir, d'où peut-être un peu trop de micro-trottoirs autour de chez soi aussi, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir d'habitude.
Je crois qu'il faut qu'on s'entende bien sur la question. Je ne mets pas du tout tous les journalistes dans le même sac et je pense que c'était très difficile de faire son métier. Mais j'ai pu constater quand même, notamment dans Le Monde et dans quelques organes de presse, que les journalistes ont réussi, malgré toutes ces difficultés, à mener des enquêtes d'investigation et donc à faire leur métier d'essayer de comprendre, de nous faire comprendre ce qui se passe. Parce que quand on est dans une logique qui conduit à la simplification, qui est quand même aujourd'hui la dominante dans la société, on supprime toute la dimension de la complexité qui permet de faire comprendre, qui permet à des citoyens de sortir de l'ignorance et de la peur de soi ou de la peur des autres. Je pense que le mouvement dans lequel on a été entraîné n'a pu que conduire à ajouter encore un petit peu plus d'anxiété chez les Français. Et ça, c'est pas bon pour une démocratie. Mais je dis pas que les journalistes sont collectivement responsables. Je pense, pour ne rien vous cacher, plutôt aux télés, aux médias des télés
aux chaînes tout info.
De flux, aux chaînes de tout info. Oui, bien sûr.
Oui, les chaînes publiques ayant retrouvé aussi une dimension pédagogique, puisque vous parlez de pédagogie, de nuances et de complexité, certaines des chaînes publiques ont travaillé justement à cette dimension pédagogique.
C'est tout à l'honneur de la presse, et ça démontre d'ailleurs que, quelles que soient les circonstances, quand les journalistes le veulent, ils peuvent arriver à aller chercher la vérité là où on la cache. C'est quand même l'essentiel de notre métier.
Est-ce que Noël Mamère, en tant toujours qu'ancien journaliste, vous portez un regard particulier, disons plus ou moins indulgent sur le travail de ceux qui ont été vos confrères il y a quelques années?
Je vais pas me transformer en juge et en arbitre. Non, je pense que les journalistes ont essayé de faire leur métier au mieux. Et si vous me demandez qu'est-ce que j'aurais fait à leur place,
oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux affaires?
Je n'aurais sans doute rien fait de mieux. Je me suis fait balader comme tous les autres au moment de Tchernobyl, et peut-être me serait-il arrivé exactement la même chose au moment de la Covid-19.
Est-ce que justement au moment de ces crises paroxystiques, qui sont des moments très singuliers pour faire son travail de journaliste, votre souvenir est celui, malgré tout, là vous dites je me suis fait balader, c'est peut-être rétrospectif, vous le sentiez peut-être pas comme ça au moment où vous le faisiez, mais en 86, est-ce que vous avez dit, en même temps c'est un travail qui a un moment passionnant, d'un point de vue journalistique c'est passionnant?
D'un point de vue journalistique, tous les journalistes, vous la première sans doute, quand il arrive un événement extraordinaire, c'est une poussée d'adrénaline absolument formidable. Et ça excite la curiosité d'un journaliste. J'ai le souvenir, quand j'étais à la rédaction d'Antenne 2, qui s'appelle France d'aujourd'hui, de moments très forts, de moments extraordinaires, quand il survenait quelque chose qui n'était pas habituel et qui bousculait l'ordre des choses. On n'avait même pas besoin de se téléphoner, on n'avait même pas besoin d'être appelé par le rédacteur en chef. On était tous là, sur le pont, pour travailler. Oui, il y a une forme d'excitation et d'addiction, je dirais.
Dans un livre qui est à paraître dans les jours prochains, le 4 juin, aux éditions Les Petits Matins, et que vous avez intitulé « L'écologie pour sauver nos vies », Noël Mamère, vous avez ajouté un passage sur les médias au temps du coronavirus, et plutôt critique, c'est-à-dire vous faites un parallèle entre la viralité du virus et la viralité des réseaux sociaux. Expliquez-nous.
Oui, parce que je pense, vous savez, plutôt que d'essayer d'organiser le débat et précisément d'éclairer la complexité du monde, on préfère aller à la simplicité, organiser le clash. Donc on le met. Là encore, je ne mets pas tous les médias dans le même sac. J'ai analysé surtout les télés d'information en continu et une certaine presse qui a abandonné l'enquête, a abandonné la pédagogie, a abandonné le souci de l'explication au profit du clash et de ce qu'on appelle le bruit médiatique, dans une espèce de concurrence effrénée, de course à l'échelle haute extrêmement dangereuse avec les réseaux sociaux. On voit bien qu'il y a quand même l'affaire Raoult en est quand même l'exemple le plus emblématique de ces derniers jours. Vous avez quand même vu l'emballement des médias autour des propositions du professeur Raoult, et c'est dans votre journal tout à l'heure que j'ai entendu cette dernière étude qui a été faite par un laboratoire qui montre que ce qu'il proposait ne sert à rien. Mais pendant des jours et des jours, on nous a fait croire qu'on tenait le médicament miracle, tout ça, alors que les journalistes, pour ceux qui le présentaient en tout cas, étaient déjà informés que les études qui avaient été faites ne l'avaient pas été avec des protocoles scientifiques qui méritaient qu'ils soient relayés.
Est-ce que ce n'est pas là le problème profond, essentiel de l'incertitude du moment que nous traversons, avec effectivement ces informations qui chassent celles de la veille, parce que la connaissance sur le virus a changé, tout simplement, et donc les journalistes sont aussi tributaires de ce savoir qui avance. Alors évidemment, ça contribue à jeter le trouble, parfois à aggraver la crise de confiance dans les savants, dans les politiques et dans les médias également.
Oui, alors, il y a trois choses dans ce que vous dites. La première, c'est la crise de confiance. elle se répète d'année en année avec l'enquête de la Croix, et la dernière enquête de Data Covid montre qu'elle ne touche pas simplement cette crise de confiance, elle ne touche pas simplement la presse, elle touche bien sûr les politiques, mais elle touche la presse, c'est-à-dire les médias plutôt, les politiques et même aujourd'hui les scientifiques. La question de l'incertitude, c'est notre société qui est dans l'incertitude. Pour reprendre ce qu'écrivait récemment le philosophe Jean-Luc Nancy, je dirais que face à ce qui nous attend, et ce qui nous attend est bien pire que le coronavirus, c'est-à-dire les effets du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, on n'a plus de futur, mais le futur est remplacé par l'incertain. Quant à la question de savoir ce qui le mardi remplace ce qui a été dit le lundi, ça c'est le problème des télés d'information en continu, c'est un petit peu la stratégie du sapeur camembert, il y a des trous, il faut les remplir. Donc par exemple, dans mon bouquin, j'analyse tout ce qu'on a fait autour du président Chirac et de la mort du président Chirac, qui était devenu l'alpha et l'oméga de l'information pendant quelques jours. Et pendant le même temps, il y avait une catastrophe qui se passait à Lubrizol, une catastrophe à la fois technique et sanitaire. Il a fallu attendre que le président soit enterré pour que ces médias-là s'intéressent à cette question. Voilà, donc ça c'est pas la question de l'incertitude. Il faut nourrir la bête, je dirais.
Précisément sur cette question de la place de l'écologie dans les médias, puisque votre livre porte sur l'écologie pour sauver nos vies, l'écologie et le rapport à la nature, aux animaux, les marchés d'animaux sauvages en Chine notamment, bref, la responsabilité de l'homme aussi dans l'origine de cette crise, est-ce que selon vous, ça a été bien analysé? Est-ce que cette place de l'écologie dans les médias a pris suffisamment d'importance au cours de ces, bon, allez, deux mois, disons même trois maintenant?
Alors l'écologiste que je suis vous dira que il a fallu, le réveil a été tardif pour montrer que ce virus n'est pas justement un ennemi, et qu'on n'est pas en guerre avec lui, mais qu'il est principalement causé par l'homme, et notamment par la prédation, la déforestation, les cultures intensives qui nous rapprochent de plus en plus du monde sauvage, qui porte des virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pathogènes pour l'homme. Ça, c'est maintenant, c'est une réalité que plus personne ne nie. On n'a pas dit grand-chose dans les médias mainstream sur l'écologie et sur ce qui est en train de se passer et sur pendant que la pandémie est active, le dérèglement climatique lui aussi est à l'œuvre. Mais fort heureusement, on a vu beaucoup une sorte d'interdisciplinarité autour de la question de l'avenir de l'espèce humaine et de sa responsabilité dans la destruction de son milieu de vie. Je pense aux contributions des philosophes, des sociologues, des économistes, des scientifiques, et je souhaite, j'espère vivement que ces contributions multiples vont contribuer à nous faire prendre conscience de l'urgence qui est devant nous et de la nécessité de changer de modèle. Mais sauf que pour changer de modèle, on ne peut pas répéter à l'envi, comme le fait Nicolas Hulot ou d'autres, que l'écologie ça rassemble. Non, l'écologie c'est un champ de bataille. L'écologie c'est un combat, et c'est un combat parce qu'il y a en face de nous des gens qui vont résister, et il n'y a pas que Trump qui résiste, on l'a vu aussi en France avec des grands lobbies qui demandaient déjà que l'on réduise les normes environnementales. Donc nous voyons bien que nous ne sommes qu'au début d'une bataille qui met en jeu l'avenir de notre espèce sur cette planète. Et il faut qu'on arrête de dire « sauvons la planète », parce que la planète elle n'en a rien à faire. Elle survivra à l'espèce humaine, c'est à l'espèce humaine de se réconcilier avec ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle le monde des vivants, c'est-à-dire les autres qu'humains, et prendre conscience que nous sommes totalement dépendants de cette dent, que nous sommes qu'un maillon de cette chaîne, et que si nous rompons la chaîne, c'est nous qui allons disparaître.
L'écologie pour sauver nos vies, c'est donc le titre de ce livre à paraître aux éditions Les Petits Matins, où il est notamment question des médias au temps du coronavirus, mais évidemment de bien d'autres choses encore, et c'est à paraître le 4 juin. Merci beaucoup, Noël Mamère, d'avoir été avec nous ce matin.